Nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas. Nous sommes un en toi. Ce matin, j'aimerais parler des œuvres de la foi. Et c'est mon sixième message sur les œuvres de la foi, mais en particulier ce matin aborder un aspect de la foi que je ne retrouve pas forcément toujours chez les croyants, c'est le repos de la foi. Le repos de la foi, et je voudrais ce matin que vous me suiviez parce qu'il me semble extrêmement important d'avoir une vision juste de ce qu'est la foi en réalité. Le repos est réellement une des conséquences et en même temps une œuvre de la foi. Les termes hébreux sont « noir » et « shabbat » et les mots grecs sont « anapao » et « anaposis » et ils parlent et ils impliquent la notion de délassement, de rafraîchissement, de cessation d'activité. Dis à ton voisin ce matin, on va se délasser. Dis à ton voisin, on va se délasser. Est-ce que le son est pas trop fort pour vous? Ok. On va se délasser. On va passer des moments de rafraîchissement. On va se reposer de nos œuvres. Vous savez, dans une société comme celle dans laquelle nous sommes oppressés et oppressantes, une société dans laquelle, vous le voyez bien, on arrive dans certaines sociétés et dans certains lieux de travail à un tel stress que les gens mettent fin à leur vie par le suicide, parler de repos est quelque chose d'extrêmement important. Et j'aimerais vous rappeler que le peuple de Dieu est appelé à rentrer dans ce repos, non pas que du temps de Jésus, et il y avait également de la pression. Souvent on se dit, oui mais jamais ça a été comme aujourd'hui, jamais il y a eu une pression comme aujourd'hui, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est agressé de toutes parts. On est agressé au travers de nos oreilles, ce qu'on entend, on est agressé au travers de nos yeux, ce qu'on voit, on est agressé par la pression, par tout ce qu'on met sur nous, mais du temps de Jésus il y avait aussi de la pression. Du temps de Jésus, il y avait aussi de l'agression. J'aimerais vous rappeler que quand Jésus est né, les Hébreux étaient, le peuple juif était sous domination romaine. Il y avait la guerre. Il y avait de l'oppression. Il y avait un occupant. Pour ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a un occupant, tu vis plus de la même manière. Je sais que parfois je parle avec Papa Jean et Papa Jean il me dit tu vois je peux pas regarder un seul film où je revois la guerre. Je peux pas voir. Il y a une forme de traumatisme, il y a quelque chose qui revient et il me dit quand je vois ces choses, rien que quand je vois des soldats allemands, il y a tout un souvenir qui revient. Il dit le peuple allemand je l'aime. Et je suis totalement guéri de ce qui s'est passé, mais revoir ces scènes me rappelle du stress, me rappelle de l'oppression, me rappelle de la peur. C'est exactement ce qui se passait du temps de Jésus. Et la parole que le Seigneur va donner à ceux qui étaient là et qui étaient fatigués, elle est valable pour nous ce matin comme elle était valable pour eux. Il est dit dans Matthieu 11, Jésus dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos, se reposer ». Lorsque Christ parle de repos, le repos qu'il va nous offrir n'est pas une cessation d'activité, mais un repos intérieur. C'est-à-dire que dans l'activité, dans l'action, dans tout ce que tu vas être amené à faire, il va y avoir en toi une paix, il va y avoir en toi un repos, il va y avoir en toi une grâce. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Étymologiquement, le terme fatigué, eh bien, était assimilé à coups et marteaux. En d'autres termes, Jésus était en train de dire, vous tous qui avez pris des coups, vous qui avez été brisés par la vie, venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et jamais plus qu'aujourd'hui, eh bien, l'Église n'a eu besoin de découvrir qu'en Christ, il y a réellement un repos. Et je crains que parfois la manière d'aborder la foi ne nous entraîne pas dans un repos, mais plutôt dans une espèce de stress et lutte intérieure. Et c'est ce que je voudrais ce matin clarifier avec vous. David pouvait dire « L'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il y a un moment donné où tu peux te poser, tu peux être tranquille, tu peux être dans la paix, plus sous pression, plus cette agression constante, parce que tu sais que l'Éternel n'est pas seulement un berger, mais l'Éternel est mon berger. Et c'est exactement ce que va ce à quoi la foi va vous conduire. L'Éternel devient votre berger, et parce qu'il est votre berger, eh bien la conséquence, c'est le repos qui en découle. Un repos profond. Malheureusement, malgré cela, dans les églises, et je circule passablement, vous le savez, je rencontre des hommes et des femmes qui ne sont pas dans le repos. Ils sont toujours dans la lutte, et tout n'est que lutte chez eux. Et tout n'est que lutte chez eux. Mon premier point ce matin, c'est que Dieu est un Père. Il faut que nous nous rappelions cela. J'ai parfois le sentiment qu'on a oublié qui Dieu est. Dieu est d'abord un Père. Et lorsque Christ nous enseigne à prier, dans Matthieu 6, la première des choses qu'il dit, « Notre Père, qui es aux cieux, notre Père, notre Père. » Est-ce que tu peux commencer à dire « Père » là, la place où tu es, simplement dire « Père, mon Père. » C'est là le problème, c'est que certains n'arrivent pas à le dire, ou certains ont une vision totalement défigurée du Père, tout simplement parce que la relation qu'ils avaient eux-mêmes avec leur propre Père a été une relation conflictuelle ou déstructurante. Et trop souvent, eh bien, cette relation avec le Père terrestre conditionne la relation avec le Père céleste. C'est comme si l'on vous mettait des lunettes déformantes, et ces lunettes déformantes vous amènent à voir Dieu comme vous voyez votre Père. L'approche que vous allez avoir et la manière dont vous allez vivre votre foi va découler du regard que vous avez sur Dieu le Père. Pour certains, ils ont eu un Père violent. J'ai rencontré des hommes et des femmes, j'ai un de mes amis, son père était à un tel stade de violence que dans le grenier, il l'attachait à une poutre et il le frappait avec une rallonge. Et ça, parfois, jusqu'à ce qu'il saigne. Lui, le père, c'était simplement la peur. D'autres, il y a eu la journée des dames ici dans ce lieu, et j'étais tellement touché dans mon âme de voir la soif et le besoin que les sœurs avaient d'être entendues, d'être secourues. Et je bénis Dieu pour ma sœur Stéphanie qui était là. Vous savez, une femme qui parle aux femmes, c'est toujours différent. Et je crois qu'il y a un bienfait lorsque des sœurs prennent soin des sœurs. Et je crois qu'il y a des choses, messieurs et mes frères, que nous ne pourrons jamais comprendre comme une femme peut les comprendre. Même si nous nous donnons de la peine, il y a parfois des limites dans notre capacité de comprendre. Et puis, il y a des limites dans la capacité qu'a la femme de se confier à un homme. Et ce qui est arrivé dans la conférence, c'est que notre sœur parlait de cœur brisé, de cœur blessé, de vie abusée. Et il y a là eu tout d'un coup un mouvement de femmes qui ont commencé à pleurer, à qui se sont effondrées. Certaines ne pouvaient plus parler parce que leur père les avait abusées. Mais quand un homme t'a abusé, tu ne vas pas te confier à un autre homme. Tu le gardes pour toi. Et je bénis Dieu pour cette conférence qui a permis à ses sœurs d'ouvrir leur cœur et de se confier à d'autres femmes en disant « Voilà ce que j'ai vécu ». Mais quand tu as une relation comme ça avec un père abuseur, eh bien, constamment, que tu le veuilles ou non, si tu n'es pas guéri au fond de toi, la vision que tu vas avoir du Père Céleste, c'est celle d'un père abuseur. C'est celle d'un père qui t'exige l'impossible ou qui t'exige des choses interdites. C'est celle d'un père qui met toujours la barre tellement haute parce que d'autres ont eu des pères exigeants. J'avais l'autre jour le témoignage d'une personne dont le père était tellement exigeant. Il disait, quels que soient mes résultats à l'école, quand je rentrais, c'était jamais assez bon. C'était jamais assez bon, c'est comme si tu travailles, mais tu sais d'avance que quand tu donneras le meilleur de toi-même, tu seras encore en dessous de la barre. T'as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Les exigences du Père sont toujours plus hautes que ce que tu peux faire. Le père, lui, s'imagine que parce qu'il monte la barre, il t'encourage à monter, mais il est en train de te détruire. Et vous avez aujourd'hui des croyants qui ont une vision défigurée du père. Et donc qui ont une foi aussi, conditionnée par ce qu'ils ont vécu. Une foi conditionnée par ce qu'ils ont expérimenté avec leur père. Ils rentrent dans une relation à leur faucille. La foi pour eux, c'est pas un repos. Pour eux, Dieu le Père devient quelqu'un d'exigeant. J'ai rencontré des croyants, et vous allez voir, c'est assez intéressant comment les choses se traduisent. J'ai rencontré des croyants qui ont peur de Dieu, mais ils ne vous diront pas qu'ils ont peur de Dieu. Ils vous diront qu'ils ont la crainte de l'Éternel parce que Dieu est saint. C'est-à-dire que derrière un vocable très spirituel, derrière un vocable très religieux et très respectable, se trouve là une manière de vivre sa relation avec Dieu, mais qui est mue non pas par la sainte crainte qui nous amène à honorer Dieu et à l'aimer, mais par la peur. Et c'est la peur qui va dicter leur conduite. Ils ont une relation à Dieu comme le père, l'enfant battu à son père. Et tout ce qu'ils vont faire, ils vont toujours le faire de manière à ce que Dieu ne les sanctionne pas. Le Dieu qu'ils connaissent, c'est un Dieu sanction. D'ailleurs, parfois on a même été jusqu'au SAD, où on m'a dit, mais Samuel, tu ne présentes pas Dieu suffisamment sévèrement. Il faudrait que les gens sachent que Dieu est celui qui peut les réduire en cendres. Il faudrait que les croyants aient la crainte de Dieu. Mais ça c'est plus la crainte de Dieu quand tu es terrorisé. Moi j'ai la crainte de mon père, je vous assure, j'ai la crainte de mon père, mais je ne suis pas terrorisé. J'ai la crainte et cette crainte est mue par un profond respect, par un amour. Je crains de faire des choses qui pourraient le blesser, je crains de faire quelque chose qui pourrait toucher à son âme. Je le respecte profondément, mais je ne suis pas terrorisé, même s'il m'a corrigé quand j'étais petit. Comment ça, pas assez ? Madame Peter Schmidt, les commentaires sont interdits pendant la prédication. Et parfois, il me corrigeait, mais avec tellement d'amour, tellement d'amour. Moi, je me souviens toujours, on avait un pommier japonais dans la cour. Et tu sais, le pommier japonais, c'est pas un gros tronc avec des grosses branches, ce sont que des petites branches très souples. Et alors, il disait, Yetsmiasivetra, riat lachnita. Donc, il allait couper une de ces petites branches très souples. Et quand tu la fais passer dans l'air, elle siffle. Chut, chut. Et là, il me prenait. Il mettait à l'air ce que j'ai de plus beau. Et il me disait, tu vois Samuel, moi je t'aime tellement. Je me disais, mais si tu m'aimes tellement, pourquoi ? Mais c'est parce que je t'aime que je dois te corriger. Et là tout d'un coup ça faisait zut, tac, zut, tac, zut, tac. Mais je vous assure que ça n'a jamais atteint mon cerveau. Parce qu'aujourd'hui, on a une espèce de théorie qui dit si tu corriges l'enfant, ça va le déglinguer. Je sais pas, il y a des médecins ici, il y a mon frère Patrick Ringenbach, je sais pas s'il y a un nerf direct entre les fesses et le cerveau, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a pas atteint. Pourquoi vous me regardez comme ça? Il y en a qui me regardent en se disant, bon, quand même. La crainte que j'ai n'est pas la peur de Dieu. Lorsque vous avez le besoin de faire de Dieu quelqu'un de dur, lorsque vous avez constamment besoin de le présenter comme capable de vous détruire en un instant, vous n'êtes plus dans une relation d'enfant à père, mais vous êtes dans une relation d'esclave à maître, ou bien d'oppressé à dictateur. Aucun père au monde qui se respecte ne voudrait que son fils ait une telle relation ou sa fille une telle relation avec lui. Aucun. Moi, je ne voudrais pas que mes enfants me craignent parce qu'ils ont peur des coups. Je ne voudrais pas que mes enfants me craignent parce que je pourrais les déshériter. Je ne voudrais pas... Oui, enfin, là, ils ne risquent pas grand-chose. Alors, on dit parfois des choses dans l'élan et on réfléchit après... Je voudrais pas que mes enfants, eh bien, me craignent parce que je pourrais devenir tellement violent. Le rêve d'un père, c'est que ses enfants le respectent tellement et qu'il ait un tel impact dans leur vie que la crainte qu'ils en ont est le résultat de l'estime qu'ils ont pour lui. C'est donc pas ce père qui terrorise. Dieu veut pas une relation avec son peuple qui nous emmène à ne plus pécher parce qu'on a peur des coups. Mais qui nous emmène à ne plus pécher parce que nous l'aimons. Si vous devez présenter Dieu comme celui qui frappe quand tu pèches, ça veut dire que tu ne pèches plus pour pas être frappé. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pèches plus parce que tu l'estimes. Ce matin, mon frère, ma sœur, ces hommes, ces femmes ne connaissent pas le repos de la foi. Ils ne connaissent pas la paix. C'est toujours une relation d'un père dur à l'égard d'enfants écrasés. Certains me disent, ah frère, il faudrait parler plus du mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, la gloire de Dieu s'est tellement manifestée que le peuple a été terrorisé. Ils n'avaient même plus le courage de s'approcher de la montagne. Ils n'avaient même plus le courage de venir. Ils ont même demandé à ce qu'il y ait quelqu'un qui parle en leur lieu et place. C'est Moïse. C'est pas ce que Dieu a voulu en nous envoyant le mont Golgotha et Jésus-Christ. Il faudrait que nous soyons conscients ce matin que s'il y a le mont Sinaï, il y a aussi le mont Golgotha. C'est le mont Sinaï où la loi est venue. Il y a eu le mont Golgotha où la grâce est venue. Et je ne voudrais pas que vous viviez votre foi tout le temps en fonction du mont Sinaï. Mais je voudrais que votre foi vous emmène à considérer le mont Golgotha. Où là il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il va donner son Fils. Bien sûr que la crainte de l'Éternel est nécessaire, mais la crainte sans l'amour va vous amener au légalisme, non pas à la paix. Écoutez ce qu'il est dit dans Ésaïe 28, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse. Et se brise. Règle sur règle. Précepte sur précepte. Lorsque parfois je regarde certaines vies chrétiennes, je suis triste. Je me dis, mais vous n'êtes pas entré dans le repos de la foi. Vous n'avez que des règles. Tu dois, tu n'as pas le droit, il faut. Ce qui devrait nous emmener à ne pas faire les choses. C'est l'amour que nous avons et la crainte qui en découle. Parce que l'amour sans crainte amène au laxisme. Ça, c'est l'opposé. L'amour sans crainte, c'est la grâce constante. C'est fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. C'est je pêche, je demande pardon et Dieu va déverser sa grâce. Et ça mène alors certains croyants à une vie totalement débridée et débauchée en disant que de toute manière, la grâce de Dieu est plus grande que le reste. Non, mon ami, il faut d'un côté que nous ayons la crainte et l'amour, et de l'autre côté, l'amour et la crainte. Ce matin, chers frères et sœurs, s'il y a ces croyants qui vivent cette relation et qui sont constamment dans une relation finalement où ils ont peur de Dieu, ces croyants-là n'entrent jamais dans le repos. Ils ont toujours l'impression de faire mal. Ce sont des hommes et des femmes qui vivent en culpabilité constante. Ils sont toujours dans la culpabilité. Toujours avec le sentiment que je ne fais pas assez bien, je ne suis pas assez bon, je ne vais pas assez loin. Toujours avec une pression sur eux. Vous avez également des croyants pour qui la foi, c'est presque une lutte avec Dieu. C'est comme s'il fallait arracher à Dieu les bénédictions qu'il veut nous donner. D'ailleurs, j'ai rencontré des croyants qui se définissent comme ça. Certains m'ont dit, moi je suis un combattant, moi je suis un guerrier, moi je suis un lutteur. Hey, moi je voudrais juste que tu sois un fils, je voudrais juste que tu sois un enfant. Moi je suis un guerrier, J'arrache les choses. J'ai la foi. Ils sont constamment dans un conflit. Vous avez le sentiment à les écouter qu'ils montent quand ils ont besoin de quelque chose, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont malades ou autre. Ils montent sur un ring de boxe. Et là, ils vont boxer avec Dieu pour lui arracher la guérison qui est préparée mais qu'il ne veut pas leur donner. Jésus dit lui-même, si vous demandez un pain, il ne vous donnera pas une pierre. Si vous demandez un œuf, il ne vous donnera pas un scorpion. C'est Jésus qui le dit. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train d'avoir une relation avec lui dans laquelle on pourrait penser que Dieu va nous donner volontairement le mal au lieu du bien ? Pourquoi pensons-nous que parce que nous lui demandons du pain, il va nous donner une pierre ? Pourquoi avons-nous le sentiment de devoir toujours nous battre ? Il faut prier plus. Comprenez-moi bien, prier c'est très bien, mais quelle est la motivation ? Il faut jeûner plus. Jeûner, c'est très bien. Et je me réjouis qu'on jeûne. Mais c'est quoi la motivation? T'es en guerre? Tu vas jeûner 70 jours pour lui arracher quelque chose? Manque de peau, Dieu te dit, ah, mais moi, je te l'aurais donné à 71. Mais dans quelle relation sommes-nous? De quel Dieu parlons-nous? Vous savez, en réfléchissant, je me disais, quand Jésus parle de son Père et du Fils qu'on appelait, entre guillemets, Fils prodigue, Jésus dit, le Fils est revenu et dit, donne-moi la part de mon héritage. Et c'est Jésus qui présente le Père. Dans cette parabole, le Père représente Dieu. Et c'est Jésus qui la raconte, cette parabole. Que fait le Père? Il lui donne la part de son héritage. Pourquoi? Parce que c'est un père. Parce que c'est un père. Il n'a pas eu à entrer en guerre contre lui. Même si ce que le fils demandait n'était pas juste, le père le lui accorde. Aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment que des chrétiens ressemblent plus aux... Pardonnez-moi la comparaison, mais plus au prophète de Baal qu'à Élie. On ne voit pas chez eux la force tranquille d'Élie. Lorsque vous lisez le texte, regardez, Élie, lui, était tranquille. Il pouvait même un peu les exciter. Il est dit dans 1 Roi, ils prirent le taureau qu'on leur donna et ils le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, qu'il se réveillera. » Je ne sais pas si vous voyez à quel point les deux autres devaient en être. Et là, ils crièrent à pleine voix. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le camp s'en coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Mon frère, ma sœur, parfois je vois les croyants être agités, mais pas dans le repos de la foi. Est-ce qu'Élie a eu besoin de sauter ? Est-ce qu'Élie a eu besoin de crier? Est-ce qu'Élie a eu besoin de se couper? Sa foi en Dieu était telle et sa confiance était telle qu'il était en repos face à 400 prophètes. Eux s'agitaient et je vois aujourd'hui des croyants agités, des croyants qui ne sont pas dans le repos de la foi, des croyants qui sont toujours là en train de se battre avec Dieu, des croyants qui sont toujours en train d'hurler, qui se définissent comme ces guerriers de l'Éternel qui doivent arracher quelque chose à l'Éternel. C'est pas biblique, mon frère. Tu es un fils, tu es une fille. Et si le Seigneur te donne une promesse, tu peux compter dessus. Amen. Tu peux entrer dans le repos de la foi. Tu es malade, prie dans le calme et la confiance sera ta force. Ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas dans l'inquiétude. Et j'y reviendrai. Pourquoi? Et c'est mon deuxième point. Parce que non seulement Dieu est un Père, mais Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Bon, je sais que mon père m'aime. Je sais que ma mère m'aime. Et parce qu'il m'aime, je suis en confiance et je suis en paix. Je sais que si je veux aller manger chez ma mère, il suffit d'un coup de fil, hein. Et tout de suite, yaya samikum et morteline sa soupe. Viens, je te fais de la soupe aux lentilles. Viens, je te fais ceci, viens, je te fais cela. Il y a de la joie. Il y a de la joie pour une mère de recevoir son fils et sa fille. Hello! Il y a de la joie. Béatrice, je suis sûr que tu es heureuse. Puis remplissent la maison. Moi, je sais que j'ai toute ma tribu qui va venir pour Noël. Mais je suis déjà maintenant dans la joie. Je suis déjà maintenant dans la joie. Des bébés vont venir, des petits vont venir. Ça va venir de partout, ça va être plein. On ne sait pas comment on va gérer, mais on sera ensemble. Mais on sera ensemble. Et faire plaisir à mes enfants. Ils ne sont pas là à me supplier. Papa, s'il te plaît. Oh, grand papa. Oh, céleste papa. Merveilleux papa. S'il te plaît. Même si parfois je rêverais que ma femme me dise « Mon Seigneur ». Vous savez ce qui est intéressant, il n'y a que les dames qui font « Ouh !» parce que les hommes ils pensent la même chose, ils disent « Ah moi aussi ça me plairait hein !» Écoute bien, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, hein, le Dieu qui nous a été présenté dimanche dernier, s'intéresse à moi. Dis à ton voisin, il s'intéresse à toi. Est-ce qu'on peut me préparer la vidéo juste un instant avant qu'on la lance? Vous savez, Dieu qui crée les cieux et la terre s'intéresse à moi, vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si vous, tout d'un coup, je ne sais pas, il y a peut-être ici des chimistes ou il y a peut-être ici des laborantins. Vous travaillez souvent avec des microscopes. Enfin, il n'y a qu'un œil, un microscope. Y a pas deux. Bon, parfois, il y en a deux, hein, je ne sais plus. Et là, tu regardes tes souches et tu vois des cellules. Et tout d'un coup, tu déclares dans le labo, je vous aime. Je vous aime. Et là, tu as tes collègues. Kate? Je vais me donner pour vous. Je vous aime. Frères et sœurs, regardez les images. C'est ce Dieu-là qui nous aime. C'est ce Dieu-là qui vous aime. Normalement, ce n'est pas un homme qui est couché au soleil en général. Mais là, pour le film, ils ont pris un homme. Moi, je n'arrive pas à le réaliser. Un Dieu si grand qui m'aime, moi. Un Dieu si grand dont la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que ce matin vous pourriez, est-ce qu'on pourrait peut-être un tout petit peu rectifier le tir et dire, hey, ma foi repose sur un Père, ma foi repose sur quelqu'un qui m'aime, ma foi repose sur le Tout-Puissant, je peux donc entrer dans le repos. J'ai pas besoin d'être là stressé, j'ai pas besoin d'être là à taper sur la table, j'ai pas besoin d'être là à crier constamment « donne, 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 donne » jusqu'à ce qu'il donne. Il est un père, mais un père aimant, c'est donner au bon moment. Parfois, c'est au dernier moment qu'il va venir au secours. Au dernier moment, juste la prochaine vidéo, elle dure 10 secondes. Au dernier. C'est un petit bébé qui était tombé d'un deuxième étage. On peut remettre la lumière. Au dernier moment, mais il est là. Il est là avant que je m'écrase. Il est là avant que c'est fini. Il est présent. Il prend soin de moi. Je peux me reposer en lui. Je peux être heureux en lui. Je peux être rafraîchi en lui. Je n'ai pas besoin d'être stressé. Je n'ai pas besoin d'hurler. Je n'ai pas besoin de faire comme les prophètes de Baal, à me couper les veines pour qu'ils m'entendent. Je n'ai pas besoin de faire des efforts surhumains. Je n'ai pas besoin d'essayer de répondre constamment à finalement ce qui est inaccessible. Il est là près de moi. Il attend qu'une chose, c'est que je me confie en lui. C'est que je lui fasse cette confiance profonde, parfaite et entière. Écoutez, si Papa Jean, parce que c'est ça la foi. Écoutez ce que c'est la foi. Je le redis, parce qu'elle est ce qu'elle produit. Or la foi, voilà ce qu'elle produit. Une ferme assurance des choses qu'on espère. En anglais, c'est l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Voilà ce qu'est une ferme assurance. C'est-à-dire que la foi ne peut que te conduire dans le repos, tu as une ferme assurance. Même pour quelque chose que tu demandes, que tu ne vois pas encore. C'est l'évidence, parce qu'il est Père, c'est l'évidence qu'il va te donner ce qui est bon pour toi, car il reste souverain. Ne l'oubliez jamais. Moi, nos enfants venaient parfois à midi moins le quart pour du chocolat. Papa, je veux un bout de chocolat et de pain. Enfin, souvent ils allaient chez maman. Je vais rendre l'honneur à qui il revient. Rendez à César ce qui est à César et à Dominique ce qui est à Dominique. Et c'est vrai que, je ne sais pas comment sont vos enfants, messieurs, mais dès qu'ils rentraient dans la maison, ils ouvraient la porte et le premier cri, c'était « Maman !» Est-ce que c'est comme ça chez vous? Ils ouvrent la porte « Maman !» Et moi, je suis là avec les plantes vertes. Non mais ça m'est arrivé, le gars il passe à côté de moi, il m'a même pas vu, je dis « Oh, je sens le gaz !» Il dit « Ah bon, t'es là ?»« Ah ouais, si ça te dérange pas, je suis là, ouais, c'est... pareil que j'habite ici. » Il y a une relation de confiance. Si Papa Jean me dit par exemple, c'est un exemple, mais bon, on ne te retient pas si jamais tu en as une conviction, hein. Si Papa Jean me disait ce matin « Samuel... » Je te donne 30 000 euros. C'est peut-être un signe, hein? Moi, je ne les ai pas encore. Je n'ai pas l'argent. Mais parce qu'il m'a dit, Samuel, je te donne 30 000 euros. Moi, je suis déjà au garage en train de commander la voiture. Ça, c'est la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Un non-doute de celles que l'on ne voit pas. Je n'ai pas encore l'argent, mais il l'a dit. Et parce qu'il est mon père, et parce qu'il l'a dit, je peux déjà m'engager plus loin. Frères et sœurs, si Papa Jean est fidèle dans ce qu'il dit, alors à combien plus forte raison mon Père dans le ciel? Est-ce que tu pourrais dire à ton voisin que Dieu est fidèle? Tu peux compter sur lui, tu peux rentrer dans le repos de la foi. Tu peux rentrer dans le repos. S'il te l'a promis, tu peux y aller. Maintenant, suivez-moi bien. Là où se pose le problème, c'est si je vais commander la voiture sans qu'il m'ait dit qu'il va me donner 30 000 euros. Hello! Est-ce que je peux vous aider un peu à réfléchir dans l'autre sens? C'est-à-dire que je vois beaucoup de chrétiens qui font, entre guillemets, ce qu'ils appellent un pas de la foi. C'est-à-dire qu'ils veulent forcer la main à Dieu. Et ensuite, ils vont vers Dieu. « Oh Seigneur, tu vois ma confiance en toi. Tu vois que je crois que tu peux me le donner. Tu vois que je... Seigneur, j'ai fait l'emprunt par la foi. » Dieu ne paye que ce qu'il commande. Moi, si je vais au garage, je commande une voiture pour 30 000 euros. Si je retourne chez Papa Jean en disant « ça y est, j'ai acheté la voiture, donne-moi l'argent », il dit « quel argent ?» Qui t'a dit que j'avais de l'argent à te donner ? Qui t'a dit que je te donnerais l'argent ? Et là, je peux me mettre à genoux. Là, je peux commencer à l'invoquer, à lui chanter tous les chants, Dieu Tout-Puissant, et contempler mon Dieu sur son trône et jouer à l'accordéon. Ça va rien changer. Ça va rien changer parce que lui me dit, je ne t'ai jamais, jamais dit que j'allais te donner cet argent-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui ont décrété que Dieu devait leur donner des choses qu'il ne leur a jamais promis. Ensuite, ils prient, ils jeûnent, ils crient, ils pleurent et ils ne reçoivent pas. Et ils disent, Dieu m'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné, c'est toi qui as fait ce que Dieu n'a pas demandé. Imaginez Pierre. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, dis que je vienne sur l'eau. Et là, Pierre a marché sur l'eau, mais pas sur l'eau, sur la parole de Christ. Imaginez que Pierre ait fait le contraire. Il sort du bateau, juste comme ça. Eh bien, Seigneur, moi j'ai la foi, je sors. Nous aurions participé à ses obsèques, noyés. Comprenez-moi bien, le repos de la foi repose sur ce que Dieu dit et pas sur ce que Dieu n'a pas dit. Le repos de la foi nous emmène à croire qu'à Dieu tout est possible, tout en nous soumettant à sa volonté. C'est ça le repos de la foi. Et s'il faisait quelque chose que nous lui avons demandé, qu'il ne le fait pas comme nous le pensons, nous devons nous souvenir que tout ce qu'il fait, eh bien il le fait pour notre bien. Même ce que nous ne comprenons pas. J'étais encouragé, il me reste encore 5 minutes. Non, ce matin, je voudrais vraiment que vous soyez dans le repos de la foi. Mais ça, c'est qu'un constat, il reste 5 minutes. Hein. Je voudrais terminer avec ce que j'ai découvert à ce niveau-là. C'est que la foi se traduit par une telle confiance en Dieu qu'elle entraîne l'abandon. Le repos que tu as en toi t'emmène à un tel stade de confiance au Seigneur que tu n'es plus dans une lutte, tu es dans un repos. Je n'ai pas dit que tu ne persévères pas. Ne confondez pas persévérer avec vouloir arracher quelque chose. Tu es dans le repos de la foi. Souvent les gens admirent Papa Jean et me disent « Mais qu'est-ce qu'il est tranquille ? Mais qu'est-ce qu'il est paisible ?» Pourtant des épreuves il en a eu, mais il connaît le repos de la foi. Mon Dieu est fidèle. Il est un père pour moi. Il fera ce qui est juste, ce qu'il y a de meilleur. Et j'ai confiance en lui. Le repos de la foi vous amène à la capacité de confesser, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dernièrement, peut-être que cette chère sœur est devant son écran. Évidemment, je resterai très vague, mais j'ai eu un entretien avec une sœur qui a vraiment touché mon cœur à cause de sa situation. Sans entrer dans les détails, elle est atteinte d'une maladie extrêmement grave. Et il est vrai que s'il n'y a pas une intervention de Dieu, il n'y a pas de solution. Elle est jeune, elle a 4 enfants. Et elle me disait, vous savez, pasteur, de tout cœur, je crois. Et j'ai la foi. Je me bats chaque jour dans la prière. Et puis, j'ai beaucoup d'autres qui se battent avec moi. On fait des chaînes de prière et beaucoup de gens sont avec moi. Puis elle m'expliquait comment elle est arrivée au stade où elle croit que le Seigneur va lui donner. Et de tout cœur, c'était ma prière aussi après. Je souhaite tellement que Dieu la guérisse et la laisse avec ses 4 enfants. Mais à un moment donné, dans la discussion, je lui dis, elle me disait même, vous savez, j'écoute des prédications sur la foi. Comment obliger le bras de Dieu à bouger? Comment obliger le bras de Dieu? Et actuellement, sur le net, vous trouvez de tout. Hein. On vous laisse croire que c'est plus Dieu qui est Dieu, mais que c'est vous qui le pilotez. et que Dieu est devenu une espèce de marionnette avec des ficelles, et suivant la bonne ficelle, eh bien, il y a le bon bras qui va monter ou qui va descendre. Soyez prudents, revenez toujours à la parole. Et là, au bout d'un moment, après avoir été d'abord ému par son histoire et sa situation, je lui ai juste dit une chose. « Ma sœur, vous savez, la foi, c'est la chose qui honore le plus Dieu. La foi, c'est ce qui met Dieu au centre. » Et je lui dis, mais lorsque vous priez, avez-vous dit à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Et là, elle s'est mise à pleurer au téléphone. Elle me dit, pasteur, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai peur. C'est comme si, voyez le paradoxe. D'un côté, je prie pour recevoir. Mais de l'autre côté, j'ai peur de lui dire, fais ce que tu veux, par peur qu'il fasse autre chose. Ce que je comprends, humainement, en tant qu'homme, intellectuellement, et ça peut que me remplir de compassion et d'empathie, mais la foi, justement, lorsqu'elle est arrivée à sa maturité, est cette foi qui est capable de dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Dans l'assurance que Dieu est un Père, dans l'assurance que Dieu m'aime. Et elle pleurait, elle me disait, mais pasteur, vous savez, j'ai le sentiment que si je dis, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et que ta volonté soit faite, j'ai le sentiment que je ne me bats plus. J'ai le sentiment d'avoir abandonné le champ de bataille. Alors que ce n'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Quand tu es dans le repos de la foi, tu restes sur le champ de bataille, mais tu as les mains levées vers le ciel. Et tu es au stade où tu honores tellement Dieu et ta foi élève Dieu au stade où il est Dieu pour toi. Dieu sur ta vie, Dieu sur ton corps, Dieu sur ton avenir, Dieu sur tout. Et lorsque tu lui dis non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, tu es en train de lui abandonner tout. Et tu lui es en train de lui dire entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Et tu rentres dans le repos. J'ai connu une femme qui a passé par un cancer terrible. Elle m'a expliqué les différentes phases. Au début, avec Dieu, elle s'est battue. Elle s'est battue et puis il y avait l'espérance des traitements. Et je sais à quel point un traitement peut apporter de l'espérance. Lorsque notre fils était malade, chaque traitement, tu t'y accroches comme une bouée. Les traitements n'ont pas fonctionné, elle a été opérée, et puis à l'endroit où elle a été opérée, nouvelle tumeur. Et là, ça a été l'incompréhension. Pourquoi, oh Dieu, je prie, j'ai la foi, d'autres prient, pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourquoi ça revient? Et elle me dira, je me suis battu avec Dieu, je me suis battu, j'ai dit c'est injuste, j'étais en colère. Et puis j'ai commencé à déprimer, et je suis arrivé au fond du trou. Et au fond du trou, me dit-elle, j'ai enfin capitulé. Et j'ai dit au Dieu, qui suis-je pour te dire ce que tu as à faire? Seigneur, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Si mon temps est arrivé et que je dois partir de terre, parce que sur ton livre était inscrit tous les jours, avant même qu'aucun d'eux n'existât, je suis prêt à partir, Seigneur. Sinon, tu peux me relever. Et elle a été totalement guérie. Totalement guérie. Mon frère, ma sœur, ce matin, le repos de la foi s'appuie sur cette foi qui sait qui est Dieu. S'appuie sur cette foi qui sait qu'il est un Père. S'appuie sur le fait qu'elle sait cette foi qu'il nous aime. Me permet alors d'être dans la paix, dans la confiance. Me mène dans une vie sainte, non pas à cause des coups que je recevrai, mais à cause du respect et de l'amour que je lui porte. Me mène dans l'assurance que même parfois dans les chemins sans issue, au sens humain, il a la délivrance. S'appuie sur sa fidélité. Il m'a promis, et parce qu'il m'a promis, je peux, comme les 30 000 euros de Papa Jean, déjà les dépenser. Mais jamais, jamais elle ne va tenter Dieu en faisant des actes qui obligeraient Dieu à agir parce qu'on prétend avoir la foi. qui ensuite trouble vos vies. Ce matin, j'aurais aimé encore parler de Gédéon, mais le temps est passé. Je reviendrai peut-être un jour sur Gédéon. À moins que vous me disiez, on te donne encore 5 minutes. Si vous me dites encore 5 minutes, je dis, sinon je m'arrête. Allez, on va faire des votes. Il y a pas mal de votes en ce moment. Non, écoutez, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Tout simplement parce que je voudrais que vous gardiez ça. Je voudrais que vous gardiez cela. Ou alors, allez, rapidement. Rapidement, je peux... 5-6 minutes. Écoutez à quel point, moi ce que j'aimerais relever, c'est à quel point Dieu est fidèle. À quel point Dieu me connaît. Dieu connaît Samuel, Dieu connaît sa fragilité, sa faiblesse. Dieu connaît Dominique, Dieu connaît Graziella, Dieu connaît Marguerite, Dieu connaît Edeltraut. Lorsque tu lis l'histoire de Gédéon, tu as d'abord l'Éternel qui le charge d'une mission. Juge 6. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Écoutez bien, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça c'est Dieu qui lui parle. Voyez maintenant la faiblesse de Gédéon, qui ressemble tellement à ma faiblesse. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Dieu vient de lui parler, et Gédéon demande un signe. Vous savez, souvent on parle des signes. Mais là, en l'occurrence, le signe, c'est pas une preuve de foi. Le signe, c'est une démonstration d'incrédulité. Et Dieu va lui accorder le signe. Il va offrir un sacrifice et l'ange qui est là va permettre à ce que le sacrifice soit consumé. Et là, Gédéon se réveille et « Hey, j'ai vu l'Éternel, je vais mourir !» Et puis, malgré ça, Dieu lui a parlé, mais il a toujours encore peur. Il n'est pas dans le repos de la foi. Il faut encore quelque chose de supérieur. Alors il demande un deuxième signe. Il demande un deuxième signe, la toison. Et cette double exigence démontre la faiblesse de sa foi. Frères et sœurs, marcher par toison ne veut pas dire qu'on a la foi. Parfois on a besoin d'une toison pour nous rassurer, mais vous savez ce qui est extraordinaire? Moi c'est ce qui m'a touché. Et ce que je voudrais relever, c'est pas tant maintenant comment faut-il entendre Dieu, quels sont les signes, les toisons, pas les toisons, c'est pas ça mon sujet. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir l'attitude de Dieu envers lui. Il ne lui a pas dit, espèce d'incrédule, j'en cherche un autre. Non, non. T'as besoin d'une toison, Gédéon? Allons-y pour une toison. Première nuit, tu veux que la toison soit sèche et tout le reste mouillé autour? Allons-y. Et regardez, quand Gédéon demande la deuxième fois pour la toison, il sait très bien que c'est un manque de foi, parce que l'Éternel lui avait dit, un, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 2. Va avec cette force que tu as. 3. Mais je serai avec toi et tu battras Madian. 3 fois Dieu lui parle. 3 fois Dieu lui dit, je suis avec toi, tu battras Madian. Il demande un premier signe. Dieu lui accorde. Un second signe. Dieu lui accorde. Et là, il demande encore une fois avec la toison, mais il dit, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Pas cette fois, cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il lui accorde. Ça, c'est Dieu. Hello! C'est pas un Dieu avec une règle. Ah, t'as pas cru? Pang! Hast verstanden da jetzt? Oh, une deuxième fois? Et maintenant, écoutez. Et là, ça m'a subjugué. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Maintenant, c'est Dieu qui va plus loin. C'est Dieu qui, voyant la fragilité de Gédéon, va, derrière tous ces signes-là, lui en rajouter encore un. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il va lui dire, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je les livrerai entre tes mains. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Dieu lui avait déjà dit avant. Fallait-il qu'il lui redise ? Mais ce qui était beau dans ce texte pour moi, c'est que quand l'Éternel l'envoie au camp, écoutez bien ça, si vous comprenez ça, vous comprenez aussi à quel point Dieu nous aime. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » En fait, il l'envoyait observer le camp ennemi. Et maintenant, il va dire quelque chose de tellement beau. « Si tu crains de descendre, en d'autres mots, si tu as peur, malgré le fait que j'ai parlé, malgré le fait que c'est moi qui t'envoie, si moi je t'envoie, c'est que tu vas revenir. Mais si Gédéon, tu as quand même peur, même s'il ne peut rien y changer, descends-y avec Pura, ton serviteur. Dieu l'envoie et lui dit, vas-y, va voir. Et après, Dieu considère l'humanité de Gédéon. Il dit, si tu as peur, emmène ton serviteur. Même si le serviteur n'aurait rien pu faire à la fin. Le fait que Dieu m'envoie, c'est la garantie que je vais revenir. Mais Dieu sait que nous sommes des hommes. Dieu sait que nous sommes humains. Dieu sait quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos luttes, quels sont nos combats. Dieu sait que nous ne sommes pas toujours les héros. Et c'est Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous pour nous aider. Je ne te dis pas aujourd'hui, commence à demander des signes, surtout pas. Je te dis aujourd'hui, regarde le Dieu de Gédéon, c'est ton Dieu également. Regarde le Dieu de Gédéon qui a aimé cet homme malgré les signes qu'il demandait. C'est le même. Tu peux lui faire confiance. Pendant que nos yeux se ferment, pendant que les musiciens viennent au clavier, ce matin, je voudrais tellement que vous entriez dans le repos de la foi. Je voudrais tellement que vous entriez dans le repos de la foi. Je voudrais tellement, frères, sœurs, que votre vie chrétienne ne soit plus une vie constamment sous stress et sous tension. J'aimerais vous rappeler que Jésus est notre repos ce matin. J'aimerais vous rappeler qu'il est notre victoire. Pendant que mes frères jouent le cantique qu'ils ont à cœur, Jonathan, prenez un cantique, peu importe. Pendant que tes yeux sont fermés, en Jésus-Christ, le repos a été accompli. L'enfant de Dieu que tu es et que je suis, qui sait qu'il a un Père dans le ciel qui m'aime, entend sa voix ce matin lui dire, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens. Ceux qui ne me connaissent pas, en fait, dit l'Éternel, qui les recherchent, votre Père céleste. Entends-tu cela, mon frère, ma sœur ? Mon Père céleste. Peux-tu dire dans ton cœur, mon Père céleste ? À vous, chers amis, qui êtes en France, qui vous battez, qui êtes sans papier, qui êtes dans des situations parfois qui me font tellement mal au cœur, qui brisent mon cœur. Je vois des amis sans papier vivre avec 300 euros par mois quand ils les ont. Parfois devoir se battre quotidiennement pour vivre. En étant parfois encore jugé par les gens qui disent « Mais s'ils étaient restés chez eux, ils n'auraient pas ce problème-là. » C'est parce que tu n'as jamais été chez eux que tu dis, tu parles comme ça. Parce que quand tu meurs de faim au pays, alors tu cherches de l'aide où tu peux en trouver. Et si tu te dis qu'il y a un pays où tu peux manger, tu y vas. Mais à ces hommes, à ces femmes, j'aimerais dire ce matin, ne t'inquiète point. Ne dis pas qu'est-ce que je vais manger, que vais-je boire, de quoi vais-je être vêtu. Ton Père sait que tu en as besoin. Et j'aimerais dire ça pour tous les domaines de notre vie. Et j'aimerais juste te dire, par rapport au domaine qui te vient, c'est peut-être une maladie, c'est peut-être autre chose. Ton Père sait que tu en as besoin. Cherche premièrement le royaume de Dieu. et sa justice, soit dans ce repos de la foi. Et ces choses dont tu as tant besoin, te seront données par-dessus. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Entre dans le repos, mon frère, ma soeur. Entre dans la paix. Je voudrais que ce matin, vous puissiez partir, et comme le dit le terme hébreu, le terme grec, que vous puissiez partir rafraîchi, délassé. Fini ces espèces d'activités légalistes qui cherchent à conquérir le cœur de Dieu pour le convaincre du bien fondé de ce que je lui demande. C'est juste me reposer, juste m'abandonner. Lui qui te dit « Je suis le bon berger » est là ce matin. Si le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire, ton Père dans le ciel n'est pas ce voleur. Mais il est venu, lui le Fils de Dieu, afin, dit-il, que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je termine avec ce mot de saint Augustin. Notre cœur est inquiet sans repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé le repos de Dieu. Je voudrais tellement que ce matin vous découvriez le repos de la foi, le repos de Dieu, de ce Dieu qui est présent, de ce Dieu qui s'est manifesté au mont Sinaï d'une part, mais qui s'est révélé en chair et en os, là sur le mont Golgotha en donnant sa vie. De ce Dieu qui te dit, mon fils, ma fille, pourquoi tu t'inquiètes? Moi je sais. Pendant un instant, nos yeux sont fermés, pendant que les musiciens jouent, pendant que je me tais, commence à lui dire, Seigneur, je voudrais tellement connaître ce repos, ce rafraîchissement intérieur. Dis-lui ce qui te préoccupe. Dis-lui où tu as des craintes, des peurs. Et remercie-le pour ce qu'il est, ton Père dans le ciel.